Nous étudions depuis plusieurs semaines cet enseignement de Jésus qu'on appelle le serment sur la montagne, puisque Jésus l'a donné sur une montagne, plutôt une petite colline en Galilée, mais c'est ainsi qu'il a pu rassembler une foule autour de lui et leur enseigner. Ce serment sur la montagne fait partie des passages les plus connus de la Bible. Tant de phrases de ce message sont entrées dans le langage commun. Chaque jour suffit sa peine. Lorsqu'on te frappe sur une joue, présente l'autre. La poutre et la paille que nous avons vues la semaine dernière. Nul ne peut servir de maître. Que votre oui soit oui, toutes ces choses qu'on connaît bien. Tout le monde peut les apprécier, et même les non-chrétiens apprécient ce serment sur la montagne. Ces phrases en tant que pépites de sagesse, bon conseil de vie. Mais comme nous allons voir ce matin, le serment sur la montagne est beaucoup plus que ça. Les enjeux sont beaucoup plus sérieux. Alors écoutons la conclusion que Jésus donne, que Jésus fait à ce message. Matthieu chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 13. Matthieu 7, verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il n'y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. J'ai toujours du mal avec des conclusions, à faire des conclusions à mes messages, mais vous voyez bien que Jésus ici, il les réussit bien. Il termine ce serment sur la montagne avec plusieurs illustrations, plusieurs images saisissantes, deux portes, deux chemins, deux arbres, deux affirmations, Seigneur, Seigneur, deux maisons de fondement. Chaque image rappelle qu'il y a des destinées éternelles en jeu. Chaque image rappelle le danger réel de l'enfer, de se trouver loin du Seigneur pour l'éternité. Le chemin et la porte mènent à la perdition, verset 13. Le mauvais arbre est jeté au feu, verset 19. Le Seigneur, Seigneur est éloigné pour l'éternité, verset 23. Et verset 27, la maison connaît une ruine détruite par le jugement. Alors vous voyez, tout cela augmente la mise, relève la barre des enjeux de ce serment sur la montagne. Ce manifeste du roi, ce sont pas juste des pépites de sagesse, ce sont pas juste des conseils financiers, des conseils relationnels. La réalité de l'enfer était déjà présente dans ce serment et il termine avec ses avertissements, cet appel. Ce qui fait que cette question devient très importante. Est-ce que je suis en route pour le royaume de Dieu? Est-ce que je fais partie de ce royaume de Dieu? Nous avons vu ce serment sur la montagne, que c'est comme ce manifeste du roi où Jésus dévoile le programme, les valeurs de son royaume, montre comment sont les disciples de ce royaume. Et c'est un enseignement qui donne avec autorité, et la foule est frappée par son autorité en tant que roi. Mais la question se pose, est-ce qu'il est mon roi? Suis-je en route pour son royaume? Et chaque image qu'il donne ici, pour sa conclusion, va nous aider à nous examiner, à ne pas nous tromper de chemin. Alors pour savoir si nous sommes en route pour le royaume et non pas vers la ruine, voyons d'abord trois choses sur lesquelles il ne faut pas s'appuyer, et puis une chose sur laquelle on peut s'appuyer pour être sûr. Trois choses sur lesquelles il ne faut pas s'appuyer, et ces trois choses, vous allez voir dans les trois premières images, c'est l'affluence, l'apparence et les activités religieuses. Et une chose sur laquelle il faut s'appuyer, c'est un fondement que nous allons découvrir. Donc trois choses sur lesquelles il ne faut pas s'appuyer, et trois choses qui ne sauront pas nous guider dans la route du royaume, et une chose qui pourrait nous rassurer. Donc tout d'abord, il ne faut pas s'appuyer ou suivre uniquement l'affluence, les foules, les nombres, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc la porte étroite, la porte large, le chemin serré, le chemin large, la différence que fait Jésus, c'est le peu et le beaucoup. Le chemin large est à la place pour tous. Le chemin serré, c'est à la queue leu-leu. Jésus venait de rappeler, je vous rappelle en verset 7, nous avons vu ça la semaine dernière, Jésus venait de rappeler que son royaume est ouvert, gratuit pour tous. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira, verset 7. Frappez, et l'on vous ouvrira. L'accueil et l'hospitalité de Dieu sont admirables. Son désir de bénir est inépuisable. Il est ce Père meilleur que tout autre, qui donne des bonnes choses à ceux qui demandent. Donc, quand on frappe à la porte de Dieu, dans son royaume, on nous ouvre. C'est une promesse. Mais c'est juste qu'il faut frapper à la bonne porte. Et c'est ça le défi pour nous. Et quand Jésus parle d'une porte étroite, un chemin serré, il nous rappelle, il s'attaque un peu à la mentalité de nos jours, mais il nous rappelle que tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Quand il y réfléchit, c'est même pas possible. Tous les chemins ne peuvent pas mener à Dieu. Toutes les moralités, toutes les idées ne se valent pas. On apprend à se respecter les uns et les autres, mais on ne peut pas dire que toutes les moralités, toutes les idées, toutes les philosophies, toutes les religions se valent. Non. Jésus rappelle qu'il y a une porte étroite, un chemin serré, qui mène à son royaume. Et ça ne devrait pas nous étonner lorsque vous prenez l'avion. Quand vous entrez dans un avion, c'est quand même une porte étroite. Même tout le processus pour arriver dans l'avion, voilà, c'est pas juste tout le monde à la fois, chacun comme il veut. Il y a les contrôles, il y a le passeport, il y a la passerelle, il y a la porte étroite, et enfin on est dans l'avion. Au décollage et à l'atterrissage de l'avion, l'avion doit suivre un chemin exact, resserré, la piste d'atterrissage, c'est pas comme on veut. Vous savez, sur les pistes, il y a les chiffres, si vous voyez du ciel, les grands chiffres, 23 ou 17, c'est les degrés dans lesquels le pilote doit s'aligner pour atterrir justement sur la piste. Il peut pas juste dire, bon, 23, 25, 50, 100, c'est pas grave, j'atterris comme je veux. Non, c'est un chemin resserré, pas très long, il faut qu'il gère son truc. Alors, tout ça, c'est pas parce que le pilote est intolérant ou qu'il veut faire peur aux passagers ou les manipuler. Non, c'est parce que les lois aérodynamiques et de gravité ne sont pas régies par nos sentiments, par nos envies, par l'air du temps. Ce sont des choses qu'il faut respecter. Donc, une porte étroite, un chemin resserré, on l'accepte pour un avion. On apprécie même quand on insiste sur cette porte étroite, sur un chemin resserré. C'est pour notre sécurité. Il est dans le même dans les affaires spirituelles, dans les vérités spirituelles, comme Jésus nous rappelle ici. Donc l'affluence, juste faire comme tous les autres, c'est pas un garant de vérité. Et quelque part, ça nous plaît en France. En France, il ne faut surtout pas être un mouton de Panurge qui suit bêtement la foule, sans un esprit critique. On est fier de notre esprit critique. En cela, Jésus dit oui, amen, d'accord. Mais allant jusqu'au bout, être athée parce que tout le monde autour de moi est athée n'est pas une raison en soi. Gober tout ce que disent les médias et les réseaux sociaux simplement parce que leur voix domine n'est pas un bon principe de vie. Entrer par la porte étroite, chercher le chemin resserré. La vie chrétienne normale, définie par les béatitudes, comme nous avons vu en Matthieu 5, l'introduction du message, oui, avec son humilité, cette pauvreté d'esprit, son renoncement, ses persécutions, la vie chrétienne avec sa soif de sainteté, ne va pas attirer les foules ou ramasser des likes ou des abonnements gratuits. Évidemment, mais c'est pas ce qui détermine non plus la vérité. L'affluence, la majorité n'est pas un garant de vérité. Jésus nous le rappelle. Il nous invite à chercher la vérité, chercher la porte étroite, chercher la vérité de Dieu. Donc l'affluence n'est pas le meilleur guide. Ensuite, dans l'image suivante, il ne faut pas s'appuyer ou suivre uniquement l'apparence. Verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors voici un défi supplémentaire pour être en route pour le royaume, c'est que non seulement il y a une porte étroite, et il faut des fois se méfier de l'affluence ou de la foule, non seulement il y a une porte étroite qui est difficile à trouver, mais il y a des gens qui vont essayer de vous faire tromper de porte. C'est pire que les défis de Koh-Lanta, tout ça. Jésus dit, ils sont déguisés, ces faux prophètes, en vêtements de brebis. Donc il y a des faux prophètes qui disent, non, la porte n'est pas là, le chemin n'est pas là. Déguisés en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. S'ils sont déguisés en vêtements de brebis, c'est-à-dire ça va avoir l'air de chrétien, ça va avoir un air de vérité. Leur message aura un part de vérité, puisque c'est déguisé, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes, ils annoncent des fausses solutions, ils annoncent des faux saluts. D'où il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Jésus dit, il nous donne comment faire. Au-delà des apparences, il faut regarder le fruit. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il répète ça encore une deuxième fois, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un fruit, ça prend parfois du temps à discerner, à mûrir. Mais Jésus nous appelle au discernement. Si un tel enseignement produit un manque de sainteté, si un enseignement produit un manque d'amour, si un enseignement produit un manque de paix, si ça produit l'inquiétude, si ça produit la manipulation, si ça produit des perversions sexuelles, l'immoralité, c'est pas le royaume de Dieu. Ça vient pas du royaume de Dieu. Donc gardez-vous des faux prophètes, des apparences. Ensuite, dans l'image suivante de ces plusieurs acclamations, de plusieurs affirmations, Seigneur, Seigneur, dans les versets suivants, on apprend là qu'il ne faut pas appuyer non plus sur des activités religieuses, même miraculeuses. Versets 21-22, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez des iniquités. Alors Jésus, maintenant, le défi augmente encore. Non seulement il y a une porte étroite, un chemin étroit, non seulement il y a des gens qui vont essayer de nous faire tromper de porte, mais il y a aussi la réelle possibilité de se tromper soi-même, d'être aveugle sur son sort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous faites une longue queue pour entrer quelque part, vous avez votre billet d'entrée, il y a le guichet qui vous attend, vous faites la longue queue, vous êtes d'autres personnes, et la personne devant vous, ou vous-même, présentez votre billet au guichet, et la dame dit, ah non, mais c'est la mauvaise date, là, ou c'est pas cette salle ici, ou là, et en regardant le billet, vous vous rendez compte que vous êtes complètement trompé. Effectivement, c'est pas la bonne date, c'est pas le bon horaire, c'est pas le bon lieu. Vous avez fait toute cette queue, pour qu'on vous renvoie. C'est frustrant, mais on s'est trompé. Et ces gens, c'est un peu comme ça. Ils pensent avoir vécu la vie chrétienne. Ils sont surpris, mais Seigneur, n'avons-nous pas? Les faux prophètes, c'est un peu différent. Ils savent qu'ils sont déguisés. Il y a une intention malicieuse de tromper des gens. Eux-mêmes ne pensent pas aimer le Seigneur. Mais ces gens-là, c'est un peu différent. Ils pensaient être en route vers le royaume. Ils pensaient bien faire. Ils peuvent même souligner plusieurs activités faites au nom du Christ. Prophétiser en ton nom, chasser des démons en ton nom, d'autres miracles en ton nom. N'avons-nous pas fait ces choses? Donc là, cette image-là est un des plus inquiétants. Mais Jésus nous rappelle déjà que l'extraordinaire, même le miraculeux, n'est pas une preuve en soi d'une vraie spiritualité, d'une vraie relation avec Dieu. Et globalement, dans tout le Nouveau Testament, on ne va pas mettre l'accent, on ne va pas vouloir appuyer toute une vie chrétienne sur le miraculeux. On peut se tromper facilement ainsi. Mais ça nous interpelle tous, si les activités les plus miraculeuses, les plus impressionnantes ne sont pas un guide en soi, à plus forte raison, les activités ordinaires. N'avons-nous pas fréquenté le BTN? N'avons-nous pas fait de l'humanitaire? Entendons, n'avons-nous pas écouté des chants chrétiens sur YouTube? N'ai-je pas été baptisé enfant? N'ai-je pas été baptisé adulte? Mais tout cela, d'après Jésus, ce ne sont pas des preuves en soi d'être dans son royaume. Là, le défi est grand maintenant. Entrer par la porte étroite, il faut trouver cette porte. Se méfier de ceux qui veulent nous tromper, il faut discerner les fruits. Attention aux activités religieuses qui peuvent avoir un semblant de chrétien, mais qui ne sont pas en soi. Preuve. Comment nous allons faire? C'est ni l'affluence, ni l'apparence, ni l'activité nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie du royaume. Et c'est là où Jésus termine avec une dernière illustration qui va vraiment nous aider à faire le tri. Dans les versets 24 à 27, Jésus nous donne un guide fiable, un critère fiable. Ce qui fait toute la différence, c'est le fondement. Verset 24, c'est pourquoi. Donc c'est la conclusion de la conclusion. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Encore une fois, une illustration qui évoque la même idée que les autres. Toutes ces illustrations sont synonymes en quelque sorte. Le chemin qui mène à la perdition, l'arbre qui est jeté au feu, les gens qui sont éloignés de Jésus pour l'éternité. Et si la maison ruinée, le jugement, tout cela évoque l'idée de rater son éternité, de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais quelle est la spécificité de cette illustration des deux maisons? Quelle est la grande différence entre les deux? Vous l'avez vu, hein, c'est le fondement, c'est le sable et le roc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils pourraient être les mêmes sortes de maisons, même plan de maison. C'est pas ça qui fait la différence. Même clou, même type de bois qu'on utilise pour les construire. Ces deux maisons auraient pu être voisines même. En tout cas, visiblement, la même tempête frappe les deux, la même intensité de tempête, les mêmes torrents, la même pluie. Donc, ces deux maisons sont dans le même quartier, ou vivent la même chose. Donc, c'est pas le plan de maison, c'est pas le type de construction, et c'est pas le quartier qui fait la différence. La différence, vous voyez bien, c'est le fondement qui va faire toute la différence entre le roc et le sable. Mais regardez bien, Jésus précise à quoi correspond le fait d'être fondé sur le roc. Verset 24, il dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sur le roc. » Et verset 26, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sur le sable. » Pour Jésus, ce qui correspond à bâtir sur le roc, c'est entendre ces paroles qu'il dit et les mettre en pratique, et agir en conséquence, on pourrait traduire aussi. Alors, ces paroles que je dis, alors bien sûr dans un sens ça s'applique à toute sa parole, et toute la Bible est la parole de Jésus. Mais dans un sens plus spécifique, ces paroles que je dis fait référence à ce serment. Là on arrive à la conclusion, donc il rappelle le serment sur la montagne. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme qui bâtit sur le roc. Alors c'est quoi mettre en pratique le serment sur la montagne? Écouter et mettre en pratique. Agir en conséquence aux paroles du serment sur la montagne. On entend ce mot pratique, c'est quiconque pratique toutes ces choses. Et on pourrait penser, ouh, alors ça veut dire que je dois faire plus pour Dieu. Je dois pratiquer davantage une religion. Mais attention, c'est pas ça le grand appel du serment sur la montagne. Repensez au serment sur la montagne. Si Jésus, dans sa conclusion, il termine avec deux voies, deux portes, deux arbres, deux maisons, deux fondements, et si c'est une conclusion, on pourrait supposer que pendant tout ce message, tout ce serment, il a évoqué ces deux voies, ces deux façons de vivre. Si on retrace le serment sur la montagne, est-ce que nous trouvons ces deux voies? Ces deux manières de s'approcher de Dieu, ces deux conceptions de la vie. Ben oui, on les trouve, mais ce qui est étonnant pour la foule, ce qui les frappe, parce qu'ils disent Jésus, il n'enseigne pas comme nos scribes, ce qui est étonnant pour la foule, c'est que ces deux voies, c'est pas la voie juive et la voie païenne. Ces deux voies, c'est pas la voie athée et la voie religieuse. Jésus a trié autrement. On a vu ces deux voies, ces deux fondements, ces deux manières d'être, dans la manière, par exemple, de concevoir la prière. Jésus n'a pas trié les gens entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Dans le chemin large qui mène à la perdition, par exemple, vous pouvez trouver autant les pharisiens qui font des prières éloquentes que les voyous qui ne prient jamais et qui n'aiment pas Dieu. Mais Jésus va les mettre sur la même voie, dans la même maison. On a vu ces deux voies, ces deux manières de vivre dans la manière d'aborder de l'argent. Dans le chemin large, vous allez trouver des riches et des pauvres qui choisissent maman comme maître au lieu de choisir Dieu comme maître. Donc on ne peut pas dire la voie large c'est les riches et la voie étroite c'est les pauvres. Jésus trie autrement que nous avons l'habitude de faire. Les deux voies devant nous, les deux fondements possibles, c'est une voie où je cherche à être mon propre sauveur. Et l'autre voie, c'est que je fais de lui mon sauveur, mon fondement, le fondement de ma justice. Prenez le Notre Père. On peut prier le Notre Père sur le chemin qui mène à la perdition. On peut prier le Notre Père pour s'éloigner de Dieu. Ou bien on peut prier le Notre Père pour s'approcher de Dieu. C'est pas les paroles en soi. C'est pas la récitation qui fait la différence. La différence, c'est le fondement, c'est la motivation, c'est la manière d'aborder Dieu. Vous voyez, mettre en pratique les paroles de Jésus sur, du sermon sur la montagne, c'est l'avoir lui comme fondement, lui comme appui, lui comme motivation pour tout ce que nous faisons. Et il me semble que les autres images, si on les reprend un peu, confirment cela aussi. Quand Jésus dit « entrez par la porte étroite », nous savons que ailleurs dans les évangiles, il a dit « je suis la porte étroite ». Je suis la porte. En tout cas. Il a dit aussi « je suis le chemin ». Ou quand il dit à ces personnes très pratiquantes « n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait ?» Il reproche pas le fait de chasser des démons. Le problème, c'est pas chasser les démons ou faire des miracles ou prophétiser. Ça, c'est des choses que lui-même a fait. Il va leur dire en verset 20, je ne vous ai jamais connu. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas une connaissance intime, un amour, une relation avec Jésus-Christ. Et le problème, c'est que leur fondement était leurs actions, était le miracle, était le fait de prophétiser en son nom. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est Jésus. Jésus n'était pas la base de leur activité. Donc, les maîtres agirent en conséquence aux paroles que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. C'est fonder sa vie sur lui, c'est fonder sa justice. Sur lui, c'est faire des choses avec lui comme motivation, comme fondement, vous voyez. Et en cela, le sermon sur la montagne pointe déjà vers Jésus-Christ et son œuvre, comme le fondement, le roc solide, nous avons chanté. C'est vrai que dans le sermon sur la montagne, Jésus prêche pas l'évangile explicitement comme nous avons l'habitude d'entendre, qu'il est mort, qu'il va ressusciter, que nous, en mettant notre foi en lui, en demandant pardon pour nos péchés, et avec un désir de le suivre, qu'il nous accueille dans son royaume. Mais déjà ce message pointe vers le message qui sera développé dans le reste du Nouveau Testament, comme Jésus-Christ, il est le fondement de notre justice. Et ça, c'est ça qui change. Il avait dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Donc encore, le fondement n'est pas juste des œuvres de justice. C'est pas avoir un plus que les pharisiens. Ça, c'est impossible. Jésus appelle à une autre, pas juste une autre religion, mais une autre manière de concevoir Dieu. Par la foi où Jésus devient notre fondement, notre motivation pour tout. Et cette foi-là est agissante. Cette foi-là est prête. Et pratiquante, cette fois-là, se pratique, bien sûr. Et les images rappellent ça aussi, quand il parle d'un porte étroite, mais aussi un chemin dans lequel il faut marcher. C'est pas juste qu'on passe par la porte et puis on sort le transat, et c'est ça la vie chrétienne, non, il y a un chemin étroit, resserré, marcher avec Jésus en tant que roi. Quand il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est pas tout ce qu'ils disent ça, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une foi active et agissante, même si nous apprenons ailleurs dans les évangiles que la volonté du Père dans les cieux est surtout que nous placions notre confiance en Jésus-Christ, que nous le choisissons comme maître. Mais lorsqu'on a compris que Jésus est le roi qui nous sauve de la perdition, que Jésus est le fondement qui nous protège de la tempête. Oui, on veut le suivre. On veut lui obéir. On veut suivre son chemin. Un chemin de sacrifice, oui, parfois. Un chemin d'obéissance. Mais c'est le chemin où se trouve Jésus. Et on ne veut surtout pas être éloigné de Jésus. C'est le pire des choses. Comme Jésus dit à ces gens, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Le vrai chrétien, c'est ça qu'il ne veut pas surtout. Donc c'est pour ça qu'il va prier, c'est pour ça qu'il va s'impliquer dans des activités religieuses, c'est pour ça qu'il va, pour aimer être avec Jésus, c'est pour ça qu'il va rejeter le péché. Alors je tente une conclusion, elle ne vaut pas celle de Jésus. Je le tire des Seigneurs des Anneaux, pour les jeunes. Dans le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, à un moment, le roi doit passer par une porte étroite, un chemin périlleux qui s'appelle le chemin des morts. Mais c'est le chemin par lequel il va pouvoir remporter la victoire. Mais c'est un chemin qui fait peur, et peu pourront le suivre dans ce chemin. Mais ces hommes le font. Il est accompagné de plusieurs hommes. Et cette dame Éowen lui dit, « Ces autres qui vous accompagnent, ils n'y vont que parce qu'ils ne voudraient pas être séparés de vous, parce qu'ils vous aiment. » Et l'histoire continue. Aragorn se mit alors en tête, et la force de sa volonté était telle en cette heure que tous ces hommes et leurs chevaux le suivirent. Et de fait, l'amour que les chevaux portaient à leurs cavaliers était si grand qu'ils étaient prêts à affronter même la terreur de la porte, si le cœur de leur maître était ferme, tandis qu'ils marchaient à côté d'eux. Nous sommes prêts à suivre notre roi, même le chemin du renoncement, le chemin des morts, le chemin qui conduit à la victoire, à cause de notre amour pour lui, son amour pour nous. Lorsque vous voyez que Jésus, ce roi, avait le courage et l'amour et la volonté de goûter la mort à votre place, de goûter l'enfer à votre place, vous serez prêt à le suivre sur le chemin étroit. Vous serez prêt à bâtir votre vie sur lui, à écouter sa parole, la mettre en pratique, lui obéir, tout ça par amour pour lui. Que Dieu nous aide à le faire, à suivre notre roi, là où il nous amène, jusqu'à dans son royaume. Nous prions pour terminer. C'est vrai, notre Dieu, nous te remercions pour ce serment sur la montagne, nous te remercions pour Jésus, notre nouveau Moïse, notre libérateur qui nous conduit vers la vie. Moïse aussi, à la fin de son message de Deutéronome, il a dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisis la vie. Jésus, à la fin de son serment, il nous met devant cette même choix, la vie. Nous te prions que chacun de nous, nous ayons fait ce choix de le suivre, que nous mesurions les destinées éternelles en jeu, que nous puissions mettre en pratique, agir en conséquence de ce serment sur la montagne, qui nous appelle surtout à choisir Jésus-Christ comme fondement, comprendre que c'est lui qui doit motiver toutes nos actions, toutes nos paroles, toute notre démarche spirituelle. Si c'est fait pour se vanter, pour mériter un salut, c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais si c'est lui qui a mérité notre salut et que nous voulons l'aimer, le suivre en retour, alors tu agrées, tu bénis tout ce que nous faisons pour toi. Merci pour ce culte que nous avons pu te rendre ensemble ce matin, que cela nous encourage dans notre quotidien. Notre quotidien est un peu compliqué, difficile ces jours-ci, mais nous te remercions de ce que nous avons un roi qui est déjà passé par le chemin de la mort et le chemin de la vie de la résurrection. Et nous pouvons le suivre, que sa parole devient chère à notre cœur et que nous voulons toujours plus la connaître. Que tu sois loué et glorifié ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.